Bienvenue au podcast du groupe RDL. Le groupe RDL, c'est quoi en fait? C'est un regroupement de cabinets comptables et juridiques qui est un peu partout au Québec. En fait, on est rendu avec 17 places d'affaires, plusieurs expertises. Et aujourd'hui, le sujet de notre podcast, c'est le repreneuriat et l'achat-vente d'entreprise. Donc, pour parler de ça, on a deux professionnels, deux associés du groupe RDL avec nous. Donc, tout d'abord, Benjamin, qui est associé en évaluation d'entreprise, et Rachel, associée en fiscalité. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu plus. Benjamin, je te laisse aller.
Bien, à la base, je suis CPA. Depuis plusieurs années aussi maintenant, triple E, qui est expert en évaluation d'entreprise. Ce qui me permet d'être associé au département d'évaluation achat-vente, un des deux associés là, en charge du département. On est maintenant une équipe de 5 personnes. Fait qu'on fait des mandats d'évaluation, d'achat, d'accompagnement, de vente pour l'ensemble des cabinets du groupe, peu importe les places d'affaires, aussi la clientèle externe.
Ce qui est assez rare, je pense, une équipe de 5 personnes en évaluation d'entreprise dans les cabinets comptables présentement, là, c'est ça?
Pas tous les cabinets qui ont ça, effectivement.
C'est une belle équipe.
Ouais.
Rachel?
Donc, moi, je suis associée en fiscalité. On est une cinquantaine de personnes, une équipe multidisciplinaire dans plusieurs villes au Québec, notamment Québec, Drummondville, Victoriaville, Boucherville. On dessert l'ensemble du Québec. On parle de successoral, de conformité, de réorganisation complexe, achat-vente d'entreprise. Donc, on est là pour aider les clients là, assez facilement.
On couvre l'essentiel des questions que les entrepreneurs pourraient avoir.
Exactement.
En fait. Oui. Super, parfait. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. J'aimerais savoir à quel point le repreneuriat est un sujet de l'heure présentement. Avez-vous quelques statistiques à nous donner pour ça?
C'est un gros enjeu.
Oui, oui, on parle de 50 000 environ entreprises dans les 5 prochaines années qui vont être à vendre. Il y a plus d'entrepreneurs qui vont souhaiter vendre les entreprises que de repreneurs qui vont être disponibles pour les acheter.
Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas de plan aussi. Ça doit arriver souvent. Qui arrivent, pas de plan de relève, dernière minute. Je pense que c'est 4 sur 10 qui n'ont pas de plan, quelque chose comme ça.
Oui, oui. Puis, ces entrepreneurs-là, ils ne savent pas nécessairement c'est qui les personnes qui sont en mesure de les acheter.
Okay.
Puis, il y a plusieurs types de repreneurs dans l'industrie. Là. On parle de repreneurs qui peuvent être dans la famille, puis des employés clés qui peuvent être intéressés à reprendre l'entreprise, mais également des acheteurs externes, des acheteurs stratégiques.
Chaque opportunité a aussi ses propres enjeux. Donc, c'est important de bien cerner laquelle est la meilleure pour moi, puis dépendamment de la réponse, bien, quel enjeu je dois adresser avec les professionnels.
À quel moment, dans la rencontre avec vos clients, vous commencez à déterminer ça, c'est quoi le plan de repreneuriat? Est-ce que c'est vraiment quand le client arrive et dit « moi, je veux vendre » ou c'est quelque chose qui se fait un peu en amont de cette discussion-là?
Idéalement, ce serait ça, amont, plusieurs années d'avance, tout ça, pour avoir le temps de mettre en place une bonne structure fiscale, de trouver le bon repreneur, de maximiser ton entreprise avant. Est-ce que c'est ça dans 100% des cas? Évidemment pas. Là,
non, mais on... Si 4 sur 10 n'a pas de plan, je présume que c'est pas ça la réalité des choses.
C'est ça, mais l'idéal, ce serait de préparer ça en amont.
Tout à l'heure, Rachel et Fleury, en fait, il y avait plusieurs possibilités de plans que vous pouvez offrir aux repreneurs. Tu as dit, rachat familial, en quoi ça consiste exactement? C'est quoi ça, le fait de racheter là, dans la famille?
Donc, on voit souvent là, des transferts de parents vers les enfants,
oui.
Ou grands-parents vers les enfants, ou entre frères et sœurs qui vont avoir des transferts. Ça amène son lot de défis parce que d'un point de vue émotif, c'est
plus lourd.
C'est plus lourd là, d'avoir un transfert familial. Puis des fois, c'est pas nécessairement la bonne personne qui va être choisie pour pouvoir faire le transfert. Donc, c'est aussi le fonds de pension là, de notre entrepreneur. Là.
C'est dans le fond.
Oui, exactement. Là, des fois, c'est tout ce qu'ils ont envie, c'est la valeur de leur business. Là. C'est important émotionnellement, mais c'est aussi important financièrement.
Ouais, c'est lourd de conséquences.
Bon, exact.
Ouais.
Ça amène aussi son lot de défis au niveau fiscal parce que d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de règles qui limitent les transferts familiaux.
Mm-hmm. C'est plus restreint, mettons, c'est familial versus si ça serait quelqu'un d'autre?
Ou... Exact. OK. Oui. Donc, récemment, ils sont venus changer les lois qui fait en sorte que maintenant, on peut prendre c'est l'exonération du gain en capital qui permet de vendre des actions actuellement pour ne pas avoir d'imposition pour un certain montant. Donc, okay. Quand c'est une société qui est active, ils permettent de le faire avec la famille, donc avec les enfants spécifiquement, mais juste si on respecte une multitude de critères. Donc, ça rend ça plus complexe.
Je comprends.
Puis, en plus, ben, on n'a pas le droit de faire une transaction qui est en dessous de la valeur marchande.
C'est là qu'on rentre souvent en jeu. Ouais. Beaucoup de nos mandats qui sont en contexte de transfert intergénérationnel, c'est le cas classique, les parents, les enfants, on veut vendre. On a peut-être une idée de la valeur ou peut-être pas, mais peu importe. La résultante, c'est qu'il faut le faire à juste valeur marchande.
Il faut déterminer cette valeur-là.
Il faut la déterminer. Fait que c'est là qu'on entre en jeu, la calculer dans un premier temps, faire l'exercice pour s'assurer que tout le planning, la structure est faite en cohérence avec ça. Puis que si jamais il y a une vérification du gouvernement, quoi que ce soit, ben tout le monde est protégé. On a la preuve qu'on a fait ça là, à la juste valeur.
Puis là, vous intervenez. T'sais, vous ne pouvez pas, j'imagine, présenter et celui qui vend l'entreprise et celui qui l'achète. Il doit avoir comme un... Est-ce que vous pouvez faire ça?
Ça dépend quel rôle. T'sais, exemple, moi, en tant qu'évaluateur indépendant, souvent, j'arrive comme une personne tierce. Donc, les clients de Rachel ou les clients d'un autre associé qui représentent justement le passé puis le futur. C'est les parents qui ont été clients depuis 20 ans, la relève qui va peut-être être client pour les 20 prochaines années. C'est aussi le point de vue d'un rapport d'évaluation indépendant vient un peu... normaliser tout ça, là, de dire, regarde, il n'y a pas un client qui est avantagé ou de quoi, c'est quelqu'un d'externe qui arrive et qui donne son opinion. Puis autre chose qu'on voit aussi, c'est, oui, il y a ceux qui reprennent la business, mais souvent, puis tu l'as probablement vécu, Rachel, il y a d'autres frères et sœurs, il y a d'autres membres de la famille.
Ils ne sont pas nécessairement juste deux, puis ils sont dans toute la transaction, là. Il y a peut-être d'autres...
Il y en a peut-être qui, pour diverses raisons, ne veulent pas reprendre l'entreprise, ne sont pas aptes, ça fait pas partie de leur plan. Puis ça, c'est un enjeu au-delà des règles fiscales, là, pour souvent, pour les parents, ceux qui vont céder, de dire, bon, ben je donne l'opportunité à mon enfant ou mes enfants de reprendre une portion de l'entreprise, d'ultimement peut-être leur attribuer via certains mécanismes ou au décès ou peu importe, mais les autres qui sont pas dans le portrait de la business, l'importance d'avoir une valeur, de quantifier un peu ce montant-là, l'espèce de cadeau, en tout cas, l'attribution qu'on peut leur faire à ceux qui reprennent la business.
Faut pas qu'ils soient pénalisés par rapport à ceux qui sont dans la transaction, finalement.
Ça, c'est souvent un enjeu plus personnel pour les parents, s'assurer d'une espèce d'égalité où ce qu'on peut intervenir aussi.
L'équité est différente d'un entrepreneur à l'autre, là, mais en général, c'est un principe qu'ils souhaitent conserver là, dans le cadre de leur transaction. Dans le cadre de même leur testament, là, de s'assurer que ça soit bien représenté. Là. Parce que souvent, c'est pas un cadeau que les entrepreneurs font nécessairement à leurs enfants.
Ouais.
Mais les autres frères et sœurs vont voir ça comme un cadeau.
Parce ils ont laissé l'entreprise, la perception qu'ils ont.
Exact. Mais souvent, l'enfant, il a travaillé fort pour faire fructifier cette entreprise-là. Si on dit des fois, c'est pas la bonne personne. Mais des fois, les enfants sont bien meilleurs que les parents. Puis ils vont l'amener beaucoup plus loin, ils vont la faire croître. Puis un sentiment de jalousie, des fois, qui s'installe auprès des frères et sœurs, puis qui vont avoir la perception que leurs parents leur ont donné quelque chose. Mais la plupart du temps, les enfants ont payé les parents. Oui, ils ont eu une opportunité de devenir actionnaires via leurs parents, mais cette opportunité-là, ils l'ont fait croire, puis ont remboursé leurs parents à travers le temps. Souvent, les entrepreneurs vont vouloir qu'on exprime ça dans leur testament, qu'on le reflète à leurs autres, à le reste de la famille pour...
la juste valeur de ça.
Oui, exact.
C'est vraiment intéressant. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui est un entrepreneur qui penserait peut-être vendre éventuellement un membre de sa famille, c'est très important de bien placer les bons professionnels comme l'évaluation, la fiscalité, leur comptable évidemment et peut-être d'autres professionnels pour être sûr que, j'imagine, tu as parlé tantôt de testament, donc notaire, avocat.
Exact.
Être sûr que tout soit bien attaché justement parce qu'il y a un pan d'histoire qui est très émotif. Là. Vous parlez tantôt de rachat par des employés. Plus compliqué, moins compliqué?
Différent, là, je dirais. Point de vue fiscal, moins restrictif un peu quand personne n'y est.
Oui, il y a quand même des règles encore. On est encore obligé de transiger à la juste valeur marchande. Donc, juste valeur marchande au niveau de la famille, juste valeur marchande au niveau des employés. Si on ne transige pas à la juste valeur marchande, l'employé pourrait se retrouver avec... un avantage. Il y a des façons, des mécanismes quand même pour pouvoir permettre d'avoir des avantages qu'on octroie aux employés.
Mm-hmm.
On appelle ça souvent des options d'achat d'actions ou d'autres types d'actions là, qu'on peut mettre dans le capital action pour pouvoir avantager les employés. Mais en général, ce qu'on voit, c'est des vraies transactions à la valeur marchande, soit via des acquisitions, un financement, ou un gel. Donc, on va statuer c'est quoi la valeur en date d'aujourd'hui, puis on va introduire un pourcentage à l'employé. Donc, l'employé va croître avec l'accroissement de valeur qu'il va avoir dans la société à son pourcentage que l'entrepreneur aurait déterminé de lui donner.
Okay.
C'est souvent le but de faire ça, c'est de pouvoir créer une équité
pour permettre ensuite d'avoir un financement qui est plus facile là, dans le futur. Là.
Parce que dans beaucoup de cas, les employés, tu as beau être un bon membre-clé, un bon gestionnaire, tu sais, ça ne veut pas dire que tu as les capacités financières de reprendre une entreprise au complet. Ça. Fait que le GL permet ça, puis même d'y aller progressivement. Tu sais, on peut procéder par plusieurs tranches de GL, de dire, bon, oui. Commence avec un coût de 10 %, tu vas te bâtir un petit peu d'équité, un autre 10 graduellement, tout ça. Okay. Nous, on le voit souvent parce que dans ces situations-là, ben là, l'évaluateur, il vient mettre une base dès le jour 1. De dire, ben la valeur, c'est ça, les mécaniques sont là. Puis c'est une valeur qu'on suit à travers le temps, à travers les différents mécanismes. Fait qu'au fur et à mesure qu'on débloque un pourcentage à l'employé, ben, on met à jour cette valeur-là en fonction de ce qui a changé dans l'entreprise puis tout ça. Puis ça crée comme une certaine transparence envers l'actionnaire puis l'employé. De dire, on est dans une situation où tu es ma relève, je veux t'intégrer puis tout ça. On a un processus transparent qu'on met à jour à chaque année, ça c'est vraiment apprécié.
Ça permet enfin à l'employé de tranquillement absorber, j'imagine, les charges, en fait, parce que tu sais, je veux dire, c'est pas tous les employés, comme tu disais, d'ailleurs, qui ont les moyens financiers de racheter ça. Fait que,
à un moment donné, il acquiert de l'expérience, premièrement. Il acquiert de l'équité positive, là, donc leur valeur d'action augmente, puis à un moment donné, il acquiert aussi de la crédibilité auprès de la banque. Donc là, quand il arrive auprès du banquier, qui ont déjà 40 % des actions participantes, ils vont être capables souvent d'aller acheter le reste de l'entreprise via un financement externe auprès d'une banque. Ce qui va être l'élément clé pour permettre de sortir l'entrepreneur initial. Fait qu'il s'est créé lui-même sa relève puis son acheteur clé pour pouvoir le sortir de l'actionnariat.
Ça, est-ce qu'il y a une moyenne de durée, en fait, de cette croissance-là dans l'entreprise? Est-ce que vous conseillez des fois de dire ça doit être sur 5 ans, 10 ans, 20 ans ou c'est vraiment propre à chaque entrepreneur qui vient vous voir?
C'est vraiment propre, puis de la valeur aussi en termes de valorisation de la société. Puis des fois, ça va être plus qu'un employé clé qui va racheter exactement. Fait que non, c'est vraiment, il n'y a pas de durée spécifique. Par contre, un élément que je trouve intéressant, c'est que il y a beaucoup d'employés qui ne savent pas qui pourraient être une relève. Puis ils ne savent pas qu'ils peuvent être que cette chance-là de devenir entrepreneur est à leur portée. Mm-hmm. Tu sais, de persévérer là-dedans, puis de dire, moi, je suis un bon travailleur, j'ai plein de bonnes idées, j'ai de la vision, mais pour eux, c'est tellement énorme. Le financement va être tellement difficile à obtenir, puis c'est impossible, puis la vie que l'entrepreneur vit est bien trop...
Effréné,
exact, par rapport à ce que moi je peux vivre. Mais il y a tellement de jeunes entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs ou d'employés clés qu'on rencontre puis qu'on leur dit, tu sais, c'est possible. Oui. Un jour, ça va être toi qui va être à la place, puis tu vas gagner ce bénéfice-là en totalité à toi une fois que tu vas rembourser ton emprunt. C'est toute une opportunité qu'ils ont. C'est beaucoup de travail. C'est une opportunité également que c'est le fun de voir saisir des employés qui venaient de familles modestes, qui n'ont pas d'entrepreneur autour d'eux.
Ils n'ont pas été prédestinés à ce chemin-là, mais finalement, ça leur portée.
Oui. Ça, c'est beau.
C'est notre rôle un peu de leur faire visualiser ça. Oui. Puis c'est là où on peut dire dès le jour 1, ben, regarde, là, ça va ressembler à ça le processus. Mm-hmm. On prévoit ça sur X nombre d'années, sur 5 ans, sur 10 ans. Puis tu t'en rendras peut-être pas compte, là, mais tu vas participer au profit. On va racheter l'ancien actionnaire graduellement, puis en l'espace, on dit tu vas cligner des yeux, tu vas te retrouver avec cette valeur-là. Là, au bout de 5 ans, l'actionnaire, il dit, ah, je vais avoir reçu ça, puis je vais être capable d'avoir vendu ma business grâce à ce mécanisme-là. L'employé, il dit, ben, regarde, en plus de mon salaire, je vais avoir accumulé telle valeur. Ouais. Ah, ben là, OK, là, c'est plus concret. C'est là où ce qu'on peut vraiment mettre le doigt, là, c'est ça qui va se passer, puis ça va être ça,
finalement. Fait que tu vas essayer de créer la solution la plus gagnante-gagnante pour que celui qui vend l'entreprise sorte content, satisfait de tout le temps, il récolte le travail d'une vie quand il s'en va, j'imagine, mais celui qui rachète, il faut qu'il soit aussi content puis gagnant. Puis après ça, on voulait parler, si je ne me trompe pas, de achat-vente externe. Fait que là, on a parlé familial, on a parlé employé. Achat-vente externe, ça consiste en quoi? Comment ça fonctionne?
Qui est une autre solution quand on parle de reprenariat, d'acheter et de vendre, c'est-à-dire, j'ai pas de relève familiale, j'ai personne à l'interne, ou en tout cas, le fit ne marche pas, mais je peux aller à l'externe.
Il y a d'autres possibilités, là. La
c'est ça.
N'est pas encore pris.
Beaucoup moins de restrictions. Le rôle du conseiller est très différent aussi. Là, on tombe beaucoup plus dans du service conseil. Si on représente soit l'acheteur ou le vendeur. Puis moins de restrictions fiscales aussi.
Exact. On peut transiger à la valeur qu'on veut, là. Puis on voit de tous les genres, là. Des fois, on va voir des transactions qu'on se dit, my God, je comprends pas qu'il achète ça pour ce prix-là. Okay. Puis d'autres fois, que j'achèterais demain matin pour ce prix-là.
Donc, il y a très une volonté de faire de l'argent. Là, on est là. Oui, dans le sens que les gens, c'est la valeur marchande, on essayait d'être comme... Mais là, c'est, on s'en va, puis on veut se ramasser le plus qu'on peut.
Là, on est dans le capitalisme. Là,
peu
réduit. Maximiser les intérêts du client. C'est la belle façon de le dire. Mais tu sais, il y a plein d'options. Là. Une des options, c'est de dire, ben on va aller voir au sein du même marché que nous. Fait que dépendamment à quel secteur qu'on est, il y a peut-être des concurrents qui sont intéressés à mon entreprise parce qu'ils vont ramasser des parts de marché.
Ça, c'est qui regarde ça? C'est votre équipe à vous ou c'est l'entrepreneur de son côté qui fait ses recherches?
Peu importe, ça peut être fait de façon conjointe. Il y en a qui vont arriver avec un plan établi, de dire moi je veux vendre à l'externe, le concurrent m'a approché, je sais qu'il y aura un fit, que les employés, ça pourrait bien aller du tout, puis je m'en vais vers lui.
Parfait.
Ça arrive. Ça arrive aussi des fois qu'ils disent Rachel, Benjamin, je veux vendre mon entreprise, mais je ne sais pas à qui.
Oui.
Comme une maison, je ne sais pas quoi faire, je mets une pancarte en avant.
Ouais.
Là, ce n'est pas tout à fait comme ça.
Ouais, c'est ça.
Là, l'accompagnement va être beaucoup plus au niveau de cibler ce repreneur-là.
Okay.
Que ce soit à travers notre réseau de contacts, les clients internes qu'on sait qui sont en processus d'acquisition et tout ça.
Oui.
Ça peut être des concurrents qui cherchent à avoir des parts de marché, des fois des clients qui veulent faire une intégration verticale qui disent moi, je vais acheter mon fournisseur tout ça pour avoir des synergies un petit peu. Fait qu'il y a un modèle de synergie puis de maximiser la valeur-là, dire que quelqu'un serait intéressé à mon entreprise à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu as d'autres idées d'intervenants du marché.
Oui, dans le fond, quand ils cherchent une synergie, souvent le concurrent va arriver voir l'entrepreneur et il va déjà lui offrir. T'sais, un jour, là, si tu veux vendre, je suis acheteur.
Okay.
Ils vont déjà avoir une liste.
Signaler leur intérêt. Là.
Une liste de personnes qui ont signalé leur intérêt là, parce que souvent on va rencontrer les clients puis les clients vont nous nommer certains concurrents qui sont intéressés. Fait que le jour qu'ils veulent partir ou d'avance, c'est sûr qu'ils vont contacter ces personnes-là pour pouvoir voir si l'intérêt était comme. Exactement.
Ouais.
C'est sûr que ça amène un levier supplémentaire parce que, premièrement, en termes de valorisation, un concurrent va avoir tendance à payer plus cher pour sa business parce que l'effet de synergie va pouvoir rentabiliser davantage l'entreprise.
C'est ça, on est différent de l'employé qui arrive avec pas de ressources et qui veut le faire à valeur marchande. Là, c'est de payer, aller chercher des primes sur le marché. Fait que dire, lui, mon entreprise vaut X, mais parce qu'il y a telle économie d'échelle qu'il peut faire. Okay. J'ai telle gamme de produits que lui, il n'a pas accès.
En fait, il achète comme une part de marché supplémentaire.
C'est ça, c'est un mot stratégique, dans le fond. Ils sont prêts à valoriser ça souvent sur le marché. Fait que c'est là où on dit que cette option-là, là, t'entres beaucoup plus dans la phase de négociation, maximiser la valeur, tout ça, qui est différent un peu des deux types de reprenariat qu'on a parlé tantôt.
Là. On a aussi, tu sais, les concurrents ou les stratégiques étrangers, que c'est la valeur est encore souvent plus élevée parce que eux, premièrement, sont dans un marché différent. Leur valeur de l'argent est comme souvent plus grande. On va parler souvent des États-Unis, de la France, qui sont deux acteurs importants avec le Québec. Là. Facilement, là, on va voir que les offres vont se faire plus importantes via un concurrent étranger qu'un concurrent québécois, canadien, là, ben même québécois, je dirais purement. Puis ensuite, on a aussi des repreneurs individuels, là, donc des gens qui ont envie de pouvoir reprendre une business.
Déjà existante.
Déjà existante, exact. Il y a même des regroupements de repreneurs. On reçoit des gens qui vont nous écrire puis vont nous demander s'il y a des business à vendre pour savoir parce qu'ils sont intéressés d'avoir la place comme un employé clé, mais ils ne sont pas tombés aux bons endroits pour être l'employé clé qui va reprendre l'entreprise.
Ouais.
C'est qu'eux, ils n'ont pas nécessairement les moyens financiers pour pouvoir faire l'acquisition. Fait qu'ils ont besoin des institutions financières, ça c'est certain. Là, dans n'importe quelle transaction, on va avoir les institutions financières qui vont faire un prêt en général pour une partie de la transaction. Mais le bout mise de fonds va être plus difficile à aller chercher.
Okay.
Mais il y a souvent des anges financiers ou des entrepreneurs qui sont prêts à aller aider ce genre d'entrepreneurs-là motivés.
Okay.
Puis on a souvent des entrepreneurs dans notre réseau de contacts qui cherchent des entrepreneurs motivés qui veulent acheter le business puis un bon deal d'affaires pour pouvoir investir là-dedans. Là.
J'ai fait des super belles transactions là, que tu sais, l'entrepreneur arrivait, n'avait pas nécessairement d'acheteurs. Nous, on a des bandes de repreneurs en fonction de leur profil, de c'est quoi tes capacités financières, c'est quoi tes...
Vous avez un réseau déjà bien établi.
Un réseau, tu sais, c'est quoi ton expertise, je veux dire, est-ce que tu es plus construction, manufacturier, est-ce que tu es un ingénieur, on regarde le profil, tout ça. Quel genre de business que tu cherches, est-ce que ça prend quelqu'un qui va faire une longue transition ou tu es prêt à reprendre ça, tu veux-tu être impliqué, comme Rachel disait, au fond, fait que... On peut faire des fits comme ça. Puis c'est arrivé qu'on a eu des super belles transactions, puis que c'était pas un gros joueur stratégique qui achetait ça, mais finalement tout le monde trouvait son compte là-dedans.
Un dernier joueur qui est aussi un repreneur parfois, c'est les fonds d'investissement. Eux vont être capables de. Ils ont la capacité financière, mais ils n'ont pas nécessairement le repreneur hands-on qui va prendre la place de l'entrepreneur qui était là au quotidien, puis qui gérait la business de ses mains. Là. Donc, c'est l'avantage qu'un repreneur individuel là, qui cherche une business à acheter va avoir.
Ces fonds-là, c'est d'autant plus notre pertinence est là, c'est-à-dire que tu as des contacts dans des fonds, puis tout ça. Mm-hmm. L'entrepreneur n'est pas nécessairement au courant de quel fonds d'investissement vise quel secteur, puis tout ça. Nous, on en voit passer, on a des contacts, faut qu'on est en mesure de dire, hey, ben j'ai vu telle transaction, je sais que les autres s'intéressent à tel secteur, puis tout ça. Puis comme Rachel dit, souvent, c'est des transactions qui peuvent être très payantes pour celui qui vend, parce que c'est des fonds qui ont beaucoup de moyens financiers.
Mm-hmm.
Par contre, l'avantage, c'est ils n'ont pas un opérateur envoyé là, 50 heures semaine, puis tout ça. C'est... Fait que là, souvent, ça demande plus, une plus longue transition du vendeur, puis tout ça. Est-ce que tu es prêt à dealer avec un fonds comme ça après, avoir des comptes à rendre, puis tout ça? Il y a ce bout-là qui est à valider si on va vers l'avenir des fonds d'investissement.
Il faut oser parler aussi beaucoup à l'entrepreneur, poser les vraies questions, parce que tu dis ça... souvent, on va dire, ben oui, ça ne me dérangera pas. OK, parfait. Donc, là, au moment où est-ce qu'il va te dire que tu as mis ça dans ton rapport de dépenses, tu vas être correct avec ça? Puis qu'il va te dire que tu n'as pas fait ton nombre d'heures dans la journée, puis que tu n'as pas le droit de prendre tes vacances à ce moment-là, puis que tu as des comptes à rendre.
C'est un peu d'ingérence.
Oui, donc là, on commence à étaler tout ce qui peut arriver. Ouais. Des fois, ils sont comme, oh, OK, c'est. Puis on connaît nos entrepreneurs.
Oui,
aussi, là.
C'est bien, oui,
vous savez. C'est ceux qui voudraient se faire gérer, d'autres qui ne voudront jamais se faire gérer. Donc, c'est d'être capable de leur dire clairement, c'est là-dedans que tu t'embarques. Là. Il n'y a, a pas de gants blancs parce que faut que tu sois sûr dans quoi tu t'embarques. C'est la transaction de leur vie. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis, grosse question. Là, on parle que tous nos clients, comme on dit, c'est les PME. Donc, là, c'est des entreprises qui viennent vers vous, tout ça. Mais. Quelqu'un qui serait non client, un entrepreneur qui nous écoute puis qui dit moi j'ai mon entreprise, je connaissais pas Ardelle avant ça, mais je sais pas comment qu'elle vaut, je veux la vendre, je sais pas à qui, est-ce qu'il peut faire affaire avec nous?
Absolument. Autant au niveau de l'évaluation que de la fiscalité, c'est le service qu'on offre. Puis une bonne partie de notre clientèle actuelle qui est ça aussi, de dire c'est des super belles entreprises, tout ça, soit qui sont moins bien accompagnées ou qui sont jamais posées la question, puis ils voient les services qu'on offre. C'est-à-dire, moi, je veux un package pour l'évaluation, pour la vente, la fiscalité, les avocats notaires, je veux regrouper tout ça.
Je veux que ma transaction soit parfaite. Là.
Exact, exact. Il n'y a aucun problème à ce qu'on le prenne en charge, même s'il n'est pas un client régulier d'état financier là, chez RBM.
On va avoir une belle plus-value à ce moment-là, parce que parfois, l'entrepreneur va avoir été avec des comptables ou est-ce qu'il n'y a pas nécessairement des services spéciaux, là, des services d'évaluation, des services de fiscalité. Quand ils arrivent, ils sont un peu démunis, puis on va travailler en collaboration avec les comptables de cette personne-là, de l'entrepreneur qui souhaite vendre. Puis on a de la grande plus-value parce que une réorganisation avant de vendre, c'est toujours nécessaire. Un mémo fiscal là, permettant d'optimiser la fiscalité ou du moins optimiser la lettre d'intention, le contrat qui va s'engager à quel type de transaction qu'ils vont avoir, le contrat de vente, tout ce qui est dans la vérification diligente pour un acheteur. On a beaucoup de plus-value dans un contexte d'achat-vente à ce moment-là.
Oui, le contexte d'assurance entrepreneuriale vient vraiment avec, de ce que je comprends, là, beaucoup d'expertise connexe à la comptabilité pure et dure. Là, en fait, là, c'est vraiment, vous êtes plusieurs experts, toi, l'évaluation, la fiscalité, on a le financement aussi, là, je pense à notre expert Jonathan aussi, qui peut des fois venir peut-être jouer un rôle important dans ce genre de situation-là. Donc, c'est sûr que c'est pas juste un comptable, puis c'est ça que font nos groupes ADL.
tout le monde est sous le même toit.
Exact. C'est souvent ça qui est négligé. Là. C'est vendre une business, là, c'est comme vendre une maison, comme vendre une tondeuse sur Marketplace. C'est la même chose. Là, je veux dire, tu as besoin de tous les experts à chaque niveau.
Oui.
La lettre d'intention, quand on tombe avec un achat-vente externe, ça prend une lettre d'intention qui résume les principaux paramètres de la transaction et tout ça. Mais c'est facile de signer de quoi sur un coin de table, là, mais telle clause n'a pas été bien gérée. Impact légal pour toi, impact fiscal pour toi, au niveau de la valeur, est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde? T'sais? C'est arrivé là, que hey, je vends ma business 5 millions. Ah oh, ouais, ok, crime, pas pire, mais t'as 900 000 de dettes, c'est-tu 5 millions après 900 000 ou avant? Bon, il m'a dit 5 millions, là, ok. Puis ton cash que t'as dans le compte de banque de 200 000, es-tu inclus? Ben, faudrait qu'on en jase, tu sais. Avant de signer des choses, on a levé beaucoup de vertèbres de dire là, mets ça par écrit là, parce que rendu dans 3 mois, mec, t'as investi temps, effort, énergie, il va être trop tard, là, si vous n'avez pas du tout la même vision de la transaction. Hein.
Il parle complètement souvent. Pas le même langage. L'acheteur-vendeur, là, c'est rare qu'ils ont dit la même affaire. Fait que souvent, juste d'arriver, puis de pouvoir leur montrer, le voici, là, un tableau avec les derniers états financiers, ça serait ça, là, la valeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, OK, parfait. On avance ensuite. Là. Si il y a 3 millions d'écart, là, on se retrouvera pas rendu à la fin.
C'est ça, il faut comme établir un solage, une base de ça. Puis j'ai une question pour toi, Benjamin, dans tes clients qui arrivent. Est-ce que souvent les gens, l'idée d'élévation de leur entreprise est au-dessus ou en dessous de la
Encore là, c'est vraiment variable. Je veux dire, il y en a qui a un côté émotif, tout ça, à la business, qui malheureusement pensent qu'elle vaut beaucoup plus cher. Puis souvent, rendu sur le marché, c'est le constat qu'ils font. On les prévient d'avance, tout ça. Mais en même temps, c'est le constat qu'ils font de dire, ben, finalement, il y a peut-être une valeur plus émotive que rationnelle derrière ça. Ouais. Fait que là, il y a deux options. Est-ce que je vis avec ou j'essaie de l'améliorer puis je retarde mon processus?
Parce qu'il existe des solutions pour justement réchapper un peu, j'imagine.
Là. Exact. Ben, réchapper dans le fond d'augmenter la valeur de ta business, de travailler sur tel point. Puis d'où l'importance de se prendre d'avance. Ça évite les mauvaises surprises quand tu es à 6 mois de vouloir prendre ta retraite puis que tu te rends compte qu'il faut que tu travailles sur beaucoup de choses pour atteindre la valeur que tu pensais.
Ça, c'est triste.
Exact. Fait que ça arrive. Puis à l'inverse, ben, ça arrive des fois que le client arrive et dit ben, moi, si je suis de 2 millions, je suis content. T'as un peu 2 millions, le monde va se lancer pour l'acheter. c'est pratiquement le dos pour expliquer cette raison. Regarde, t'avais pas considéré, mais tu te prends un salaire de 500 000, puis l'acheteur n'aurait pas besoin de ça. Là. S'il fait ça, il y a une économie là, puis ta valeur. Fait que là, en discutant avec eux, c'est ce genre de situation-là survient, mais il y en a des deux extrêmes. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner dans tout ce package-là qui est complexe, qui est plus complexe souvent que l'entrepreneur le pense au début. Autant l'acheteur que le vendeur, souvent, les deux pensent que ça va être simple, puis ça va être vite.
Ouais.
En un mois, tout va être réglé.
Ouais. Il y a des attentes comme ça? Il y en a qui disent un mois, c'est signé?
Ouais, là, on envoie tous les gens. Là.
On fait une formation prochainement justement sur c'est quoi la séquence d'une transaction d'achat-vente. Puis la séquence, là, elle commence des fois, là, c'est 1 an, 2 ans avant la transaction. Là. Donc, juste chercher l'acheteur, se mettre beau pour l'acheteur. Donc, on parlait tantôt de l'évaluation, de la fiscalité, de la structure. Mais il y a aussi, est-ce que ta documentation est à jour, tu sais, tes états financiers, est-ce qu'ils sont à jour, est-ce que c'est broche à foin, tes livres de minutes, t'as l'air de quoi quand tu te présentes auprès d'un acheteur potentiel?
C'est le fouillis dans tes dossiers.
Ouais. Ils vont se dire, c'est le fouillis partout. Donc, il faut que tu sois régularisé, puis que ça soit clean, que tu sois prêt. Dans le cadre de la vérification diligente étant le processus que l'acheteur va faire pour pouvoir s'assurer que la société qui achète, c'est une société qui fait du sens. Là,
qu'il y a pas de se cacher, là, est en ordre.
Exactement. Que les chiffres, c'est les bons chiffres, premièrement, qu'il voit dans ses états financiers. Ouais. Est-ce que c'est les bons chiffres? Est-ce que ça s'en va comme ça? Mm. Je pense que des fois, ils pensent que ça s'en va comme ça, mais en réalité...
C'est un peu comme on se disait, là, c'est comme l'inspection de la maison un peu. Là, t'as fait le premier look, t'as regardé, les comptoirs sont beaux, tout ça fait ton affaire, tu fais ton offre, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière des murs, dans le grenier, même si tu connais la business, tu connais le propriétaire, il y a tout le temps quelque chose qui vaut la peine d'être validé. Là, tu sais, je discutais avec Rachel ce matin, il y a une entreprise qui super belle entreprise manufacturière, très rentable, au-dessus de 2 millions de profits, puis les chiffres d'affaires, là, ça s'en va comme ça, comme ça. Puis celui qui achetait, on représentait, il dit, moi, j'achète une business en croissance incroyable, là, je veux dire, sky's the limit, ça double à chaque année, puis l'année prochaine, je vais être là aussi. Hein. Mm. Mais dans la vérification diligente d'un point de vue financier, parce qu'il y a d'autres aspects, là, le légal, le fiscal, mais d'un point de vue financier, mais là, on s'est rendu compte que finalement, c'est peut-être pas ce qu'ils pensaient, là. C'était plus de l'inflation de prix de matériaux. Puis qu'au niveau des volumes de production, ben c'est une très belle entreprise, là, mais ça s'en allait plutôt comme ça. Là.
Okay.
Fait que là, c'est de dire
une croissance beaucoup plus lente.
Exact. Fait que ça change un peu la vision de celui qui la reprend. Ça veut pas dire que la transaction s'est réalisée, ça a été super bon pour tout le monde puis tout ça. Il a revu certainement un petit peu le prix parce que là, c'était pas le même portrait qu'il pensait.
C'est ça.
La banque n'avait pas la même lecture non plus. Fait que tout le monde a mieux géré son risque. Puis c'est quelque chose que si on n'avait pas pris le temps de regarder.
Il aurait été très déçu.
Exact. Final, ça, c'est un point de vue financier. Il y a aussi plusieurs enjeux légaux. Donc, vérification de ce qui est plus mitif, tout ça qui est fait par notre équipe d'avocats.
Ouais.
Il y a un enjeu fiscal aussi qui est important.
Oui, parce que dans le fond, quand on achète une entreprise, souvent, on achète une entreprise, on achète la société. Donc, on n'achète pas nécessairement les actifs.
Ouais.
Donc, si on achète les sociétés, la société, on achète tout le passé, tous les risques du passé.
Okay.
Donc, si ils ont fait une erreur auprès d'un fournisseur ou ils ont fait une erreur fiscale, une erreur auprès d'un client plutôt, ou une erreur fiscale, mais ils vont en être redevables les nouveaux acheteurs.
Okay.
Par contre, dans les clauses du contrat, il va être précisé que toute erreur qui a été faite avant l'acquisition, c'est les vendeurs qui vont être responsables.
Mais as-tu un exemple concret de ça? On dirait que j'ai de la misère à saisir comment que tu peux être redevable d'une erreur du passé. Comment ça se traduit ça?
Ben, admettons, exemple, j'ai mis une dépense que j'aurais pas eu le droit de mettre dans ma société.
Okay.
Ou j'ai oublié de mettre un revenu dans ma société.
Okay.
C'est souvent plus complexe, là, des règles fiscales qui ont été mal interprétées, mais grosso modo, ça finit souvent sur il manque un revenu ou il y a une dépense qui est en trop. Donc, okay. J'ai pas assez payé d'impôts. Donc, si j'ai pas assez payé d'impôts, le gouvernement, l'agence, elle vient vérifier, elle va dire, ben, j'avais mon impôt, là.
Oui, tu m'as dois, là.
Tu m'as dois. Mais là, si Catherine a vendu l'entreprise, ils viennent pas cotiser Catherine.
C'est
ils viennent cotiser l'entreprise.
Je comprends mieux. Okay.
Donc, l'entreprise va devoir se retourner voir Catherine. Catherine, tu me dois de l'argent parce que dans mon contrat, ça disait que tu étais redevable du passé. Tu pourrais dire, non, je ne suis pas vraiment redevable. Moi, c'est écrit, mais c'est une interprétation.
Okay.
Là, je vais devoir te poursuivre. Là, ça peut finir en litige.
Okay.
Puis, on ne souhaite pas aller en litige.
Non.
Ça coûte juste cher. Les avocats, on les aime, là, mais ça coûte cher. Exact. La vérification du genre, ça sert à ça.
Okay.
D'éviter d'aller avec des avocats. Si on voit qu'il y a des risques vraiment importants,
ouais.
Bien, parfois, on va demander des montants garantis. Le temps que la prescription fiscale se termine, c'est souvent 3 ans.
Okay.
Donc, on va demander à garder ces montants-là en garantie ou en dette. Donc, je ne paierai pas 100% du montant de la transaction.
Okay.
Pour que s'il arrive quoi que ce soit, je vais réduire ton montant. Fait que je vais avoir une mainmise plus forte pour l'acheteur de pouvoir ajuster ma transaction. Exact. Okay.
Excellent. Fait que ça, c'est des stratégies, en fait, que vous voyez lorsque vous êtes dans cette situation-là de l'achat-vente.
Exact. Oui,
super intéressant.
Et à faire avant de se rendre au contrat final, tu sais, parce que le contrat aussi, ça aussi, c'est un autre gros morceau où c'est important d'être accompagné. Tu sais, je disais tantôt le coin de table, mais un contrat d'achat-vente, il y a toutes sortes de garanties. Qui est responsable de quoi, dans quelles circonstances, puis tout ça. Quel ajustement, parce qu'on achète une entreprise en mouvance, là, si finalement j'ai plus d'inventaire que je n'avais quand toi tu l'as regardé, qu'est-ce qui se passe sur le prix, puis tout ça. Pis c'est là l'importance d'être accompagné d'un package de professionnels qui vont regarder chaque clause, quel est l'impact financier, quel est l'impact légal pour le vendeur, puis quel est l'impact fiscal, vendeur-acheteur, peu importe.
Puis souvent, les gens vont dire les avocats l'ont regardé. Mais
il y a plein d'autres facteurs.
Il y a plein d'autres choses qui étaient à regarder. Ou autant, ils vont nous demander, regarde-le, mais tes avocats l'ont-tu regardé?
Oui,
c'est tous les professionnels doivent passer sur ce contrat-là parce qu'il y a des enjeux de toutes sortes. Puis il y a des enjeux que je ne connais pas, c'est Benjamin qui les connaît, puis il y a des enjeux que Benjamin ne connaît pas, que c'est moi qui les connais, et idem pour un avocat. Là.
Moi, ce que je retiens avec tout ça, là, cette affaire que le groupe RDL, tous les professionnels sont là.
Exactement.
Entouré, parfait. Ben, merci beaucoup, Rachel, Benjamin, c'est vraiment intéressant.
Avec plaisir.
Merci.